La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, premier jour d'une série consacrée au prix Nobel hongrois de littérature, Imre Kertész, disparu le 31 mars dernier. Je n'ai jamais vu autant de bassesse que depuis que l'on m'a décerné le prix Nobel, écrivait Imre Kertész dans son livre journal, L'Ultime Auberge, publié 2 ans avant sa mort, à 86 ans. Il poursuit: les nazis me reprochent d'être juif, les juifs me reprochent d'être juif, l'infâme vermine qui remonte du passé remplit l'air d'une pestilence cadavérique. Ce passé pestilentiel, c'est d'abord plusieurs mois dans les camps de concentration de Buchenwald et d'Auschwitz, puis une vie largement vécue sous la dictature communiste en Hongrie, une vie dont, pensait-il, le principe fondamental était la méchanceté, une vie dont la majeure partie lui semblait une perte de temps insensée, une vie que nous allons aujourd'hui nous employer à raconter. Et il se trouve que les éditions Actes Sud préparent en ce moment la sortie de la première biographie en français d'Imre Kertész. Son auteur y met actuellement la dernière main, et cet auteur, c'est Clara Royer, découverte récemment comme co-scénariste du film de Laszlo Lemes, Le fils de Saul. Elle a bien connu Kertész et elle nous fait le plaisir de venir depuis Prague où elle vit pour nous en parler. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Eh bien, par où commencer? Ce 19 mars 1944, j'avais 14 ou 15 ans, et c'était une catastrophe pour moi, l'envahissement de Budapest par les Allemands. Pourquoi? Parce que pour le samedi suivant, nous avions 2 places pour un très grand match de foot entre les deux meilleurs clubs hongrois, et j'avais compté là-dessus, ça m'intéressait, et ça n'aurait plus lieu. Et il y avait une deuxième grosse perte aussi. Nous avions déjà des places au cinéma pour Le voleur de Bagdad, et ça non plus ne pouvait plus avoir lieu, mais ça, j'ai pu me rattraper après la guerre.
Bonjour Clara Royer.
Bonjour.
C'est une archive qui vous fait sourire?
Oui, c'est une archive qui me fait sourire, d'abord parce qu'on entend sa voix et c'est émouvant. Et puis ensuite parce qu'il m'a beaucoup parlé du voleur de Bagdad. C'était un film qu'en effet il a vu après son retour de Buchenwald. Et qu'il était extrêmement déçu de ne pas pouvoir voir au lendemain de l'invasion par l'armée nazie de la Hongrie, qui en effet était le 19 mars 1944. Les cinémas ont été interdits aux Juifs, comme beaucoup d'autres endroits. Et donc Kertész ensuite a pu constater que tous les films américains, par ailleurs, avaient été retirés de la programmation, et qu'à la place... on jouait désormais, à la place du voleur de Bagdad, on jouait Le Baron de Münchhausen, qui était un film allemand. Donc c'était comme ça qu'il me l'avait raconté.
Est-ce que vous diriez que ce jour, le jour de sa déportation, a été le jour le plus important de sa vie, et que c'est avant tout, Imre Kertész, un homme qui a été déporté?
En fait, quand il écrit Être sans destin, pendant toutes ces années où s'est battu avec ce texte, il s'est battu avec ce texte de 1960 à 1973, il a fait bien attention à ne pas concentrer son récit sur une journée. C'est pas le jour de sa déportation. En fait, chez lui, il y avait l'idée d'une continuité. D'abord parce qu'il estimait que ce qui s'était passé, l'Holocauste, était un produit de la culture européenne et que ce n'était pas un accident qui venait faire césure.
Et qu'on pouvait le comprendre à ce titre.
Ni dans l'histoire de l'Europe. Et d'autre part parce que lui-même avait décidé de créer ce personnage d'Uri Kovács, qui n'était pas un personnage innocent à qui il arrive une catastrophe, qui était un personnage qui était déjà modelé, et ça se voit dans le langage du personnage, qui était déjà modelé par un système qui débouche sur la déportation.
Donc une certaine logique, en fait, de ce qui lui est arrivé. Il n'est pas le seul dans sa famille à avoir été déporté. Ses grands-parents maternels ont trouvé la mort aussi dans les camps de concentration nazis. Et ses grands-parents paternels ont été anéantis par le pouvoir communiste en Hongrie. Ce qui fait que l'histoire familiale d'Imre Kertész, c'est au fond un concentré, un résumé de toutes les souffrances de son pays, la Hongrie. Clara Royer.
Oui, en effet, et sans parler de son père, qui, juste après au début de 1944, a été envoyé dans ce qu'on appelait le travail obligatoire, le travail forcé des Juifs, et n'est jamais rentré. Et des années plus tard, Kertész s'est rendu aux environs de Sopron, une ville hongroise à la frontière avec l'Autriche, à la recherche des traces des derniers jours de son père et n'en a pas trouvé. C'était l'idée que sa vie, en tout cas le sort de sa famille, concentre l'histoire de la Hongrie, est une idée qu'il avait évoquée dans son discours du prix Nobel, qui s'intitule Eureka, où il raconte comment lui-même est devenu écrivain par nécessité existentielle. Et en effet, dans la vie de sa famille, il y a une petite histoire de la Hongrie au XXe siècle qui s'y retrouve.
Mais la violence qui est faite à Imre Kertész, c'est évidemment, et on va y revenir toute cette semaine, la violence dans les camps, la violence sous la dictature. Il parle aussi, et on en parle un petit peu moins, de sa famille, qui n'était pas une famille violente à proprement parler, mais il raconte une anecdote, celle de la dispute entre son père et sa mère au sujet d'aller ou de ne pas aller à la piscine. Je ne sais pas si vous pouvez nous raconter cette anecdote.
Alors, pour lui, ce n'est pas tellement une anecdote, c'est plutôt... En fait, Imre Kertész a un rapport difficile avec ses parents. Il estimait qu'il avait toujours été injuste avec son père. L'amour qu'il ressent pour sa mère est extrêmement compliqué. C'est le portrait qu'il donne de ses parents dans le dossier K est un portrait apaisé, finalement. C'est un portrait extrêmement tardif. Le dossier K sort en 2006, mais il s'est battu avec ces deux figures toute sa vie. Sa mère ne meurt qu'en 1991, donc les disputes ont été n'ont pas été que sur le papier. C'est quelqu'un pour qui la cruauté est une donnée de l'enfance. Lorsqu'il était petit, il a assisté aux amours clandestines de sa mère avec celui qui deviendra son deuxième époux. Et il se rappelait la cruauté avec laquelle sa mère avait confronté son père en larmes, qui avait donc compris que sa femme était allée ailleurs. Et de cette anecdote, lui, il en a tiré l'idée que le principe de ce monde, c'est le mal, finalement, même au sein de la famille. Et c'est un fait intéressant parce que chez lui, il n'y a pas de nostalgie d'un paradis perdu de l'enfance. Il n'y a pas de reconquête d'une Europe pré-auschwitzienne au XXe siècle.
Voilà, parce que donc pour finir cette anecdote, la mère qui veut aller à la piscine se voit interdit d'y aller par son père qui déchire son bonnet de bain, qui cisaille son chapeau. Et Imre Kertész raconte que lui hurlait comme un pendu. Donc quelle part, selon vous, de l'avant Auschwitz, qui est omniprésent dans ses romans, se retrouve aussi dans l'œuvre de Kertész, de manière, j'ai envie de dire, cachée?
Le fait qu'il ait détesté son enfance.
Én egy zsidó kispolgári
Eh bien, j'étais un petit garçon, plutôt petit bourgeois, qui grandissait dans un milieu petit bourgeois juif de Budapest. Alors, il faut tout de suite préciser que c'était à Budapest et pas simplement en Hongrie. Pourquoi faire cette distinction ? Parce que les milieux petits bourgeois juifs de Budapest étaient apolitiques et beaucoup, beaucoup de choses les distinguaient des autres juifs hongrois qui revenaient à cette époque-là des territoires hongrois que la Hongrie a perdu après Trianon en 1920, c'est-à-dire de la Haute-Hongrie, une partie de la Slovaquie, de la Transylvanie, aujourd'hui en Roumanie, d'une partie de l'Ukraine, de la Croatie ou de l'Autriche. Ces juifs-là, ces derniers, étaient très différents des juifs petits bourgeois budapestois. Ils étaient, eux, politisés, forcément à droite, et essayaient d'entrer dans un courant général européen et de droite pour pouvoir se défendre, se protéger. Nous, nous étions différents.
Donc il faut rappeler, Clara Royer, que le jeune Imre Kertész ne se sent pas particulièrement de culture juive, qu'il sait d'ailleurs à peine qu'il est juif avant qu'on le lui dise réellement. Dans la famille Kertész, on ne suit pas particulièrement les rites, mais il s'en rend compte au moment où, notamment à l'internat, il est envoyé dans un lycée où sur 100 élèves, il ne pouvait y avoir au maximum que 6 juifs. Et il y a une classe, qui est une classe réservée aux juifs, qui est la classe B.
Oui, absolument. En fait, au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que la Hongrie devenait ce qu'on a appelé la Hongrie de Trianon, c'est-à-dire qu'après le 4 juin 1920, date où
très importante pour les Hongrois,
était signé le traité de paix avec la Hongrie. La Hongrie s'est retrouvée réduite à un tiers de son territoire et a perdu une grande partie de sa population, 60% à peu près. Et donc dans cette petite Hongrie s'est développée, alors c'est une histoire un peu longue parce que il y a eu la fin de la guerre, ensuite il y a eu une première révolution démocratique qui a porté au pouvoir un gouvernement de type qu'on a dit après bourgeois, qui s'est fait renverser par un coup d'État interne qui a ensuite établi une dictature prolétaire qu'on a appelée la République des Conseils, à la tête de laquelle se trouvait Béla Kun, dont le père était juif. Une majorité de ses commissaires étaient d'origine juive. Évidemment, ces commissaires communistes se souciaient très peu de ce que pouvait être leur judéité. Mais lorsque la réaction a repris le dessus, il y a eu un système de contre-terreur, une terreur blanche, en 1920 notamment, et puis établissement de ce qu'on a appelé ensuite l'ère Horthy, avec le régent Miklós Horthy à sa tête, et en 1920 a été adoptée la première loi antisémite d'Europe, finalement, de l'après-guerre, avec un numerus clausus universitaire qui restreignait la possibilité de s'inscrire pour les Juifs à l'université à 6%.
Mais le rapport des Hongrois avec la communauté juive est assez ambivalent parce que jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à à peu près 1944, les Juifs ne vont pas être déportés de Hongrie. Et donc les Juifs déportés de Hongrie connaissaient déjà en fait le sort qui les attendait. Et ça va être le cas de Imre Kertész, puisqu'en 1944, à la fin de la guerre, on sait déjà, quand on est déporté, qu'on va vers des camps.
En fait, non. D'ailleurs, Simone Veil, la femme politique, racontait, parce qu'elle a travaillé sur... elle avait écrit cette préface pour l'album d'Auschwitz, dont parle Kertész d'ailleurs dans son œuvre, et qu'il a, sur lequel, même si ça ne s'appelait pas l'album d'Auschwitz, certaines de ses photos l'ont aidé pour écrire Être sans destin. Elle en parle, elle dit qu'elle avait été frappée, elle, de voir à quel point les Juifs de Hongrie ne savaient pas ce qui les attendait.
Et donc Imre Kertész ne sait pas ce qu'il attend.
Absolument
quand il
pas.
Est déporté à Buchenwald d'abord, c'est ça ?
Absolument pas. D'ailleurs, à ce point que lorsqu'il rentre en juillet 1945, et que deux mois plus tard, il se retrouve à l'école, dans le même lycée que celui qu'il avait quitté plusieurs mois plus tôt, hein, parce que les Juifs ont été... beaucoup d'enfants juifs ont été sortis de l'école à partir du moment où l'Allemagne nazie a envahi la Hongrie. Quand il rentre en septembre, il retrouve son grand copain István Bokor, qui lui dit « Ah, mais dis donc, t'as eu de la chance, t'es parti en vacances à l'étranger pendant un an. » Donc, c'est dire que finalement, non, les Juifs de Hongrie n'étaient pas tout à fait au courant de ce qui les attendait. Et quant au rapport ambivalent de la Hongrie avec ses Juifs, oui, c'est une histoire assez longue qui remonte au XIXe siècle, où il y a eu un grand courant libéral, où finalement les élites politiques hongroises étaient bien contentes de pouvoir compter sur les Juifs pour se déclarer hongrois dans un contexte impérial, dans le contexte d'une grande Hongrie qui, sans ses Juifs, aurait été mise en minorité, les Hongrois auraient été mis en minorité par les populations slaves et roumaines et allemandes. Donc c'est parce que les Juifs se déclaraient Hongrois qu'ils franchissaient les plus de 50% de population madiare sur le territoire de la Grande Hongrie. Donc il y avait eu cette, au XIXe siècle, cette tradition de coopération, en particulier dans le champ économique et intellectuel.
Alors ces années passées au camp, il n'a jamais souhaité beaucoup en parler. Mais il a tout de même écrit ce livre, Être sans destin. On parlera toute cette semaine du caractère romancé ou non de ce livre. Mais Clara Royer, on peut quand même considérer que quand on lit Être sans destin, on lit peu ou prou ce qui est arrivé à Imre Kertész.
Oui, Kertész me le disait, il n'a jamais rien eu à inventer dans aucune de ses œuvres. Tout ce qu'il a écrit est vrai. Au sens où, en effet, ça lui est arrivé. Mais ce sont toutes ses œuvres sont des romans, au sens où il a élaboré, à partir de ce matériau premier que sa vie était, des formes. Et pour lui, ce qui était essentiel dans le roman, c'était tout ce qui était de l'ordre de la composition et de la langue. Donc, de fait, j'ai été très souvent frappée, en parlant avec lui, de constater à quel point ce qu'il me racontait de lui ressemblait parfois au mot près à ce qu'il avait écrit. Dans un processus assez intéressant où finalement aussi l'autre point qui est très intéressant chez Kertész, c'est qu'il est devenu, sa mémoire est devenue son texte. Il lui arrivait de réciter sans même s'en rendre compte trois pages qu'il avait déjà écrites, mais il parlait de lui.
Alors il survit au camp. En disant que c'est une exception, c'est une erreur finalement de la machine de mort.
Oui, il devient un musulman là-bas. Donc de fait, la survie du musulman est une exception, encore plus une exception.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Eh bien parce que lorsque, dans le roman, il en parle, il y a ce passage assez... extraordinaire dans lequel il est allongé, il est dans une masse de cadavres et il regarde le ciel et le héros, hein, j'entends. Et en fait, il ne ressent plus de douleur. Il est totalement indifférent à son devenir. Et en fait, Imre Kertész a accueilli à ce moment-là la mort en lui. Il était prêt à mourir.
Ce jeune garçon que j'étais, qu'est-ce qu'il ne retrouve pas ? Il ne retrouve pas son père avant tout. Pourquoi il est revenu à Budapest ? Il ne le savait pas. Il est revenu parce qu'il était encore un élément d'un troupeau, un bovin d'un troupeau qui le matin est allé au champ et le soir il revenait au village. Moi je revenais aussi au village avec les autres bovins du troupeau. Et alors, je n'avais pas tout à fait 16 ans, j'ai demandé mon admission au Parti communiste tout de suite parce que je croyais qu'on allait rebâtir un nouveau monde. On m'a fait attendre et on m'a répondu finalement que je n'y avais pas le droit parce que c'est à partir de 16 ans seulement qu'on peut demander son admission. J'attendais donc et puis j'ai pu adhérer. Mais il n'a pas fallu attendre très longtemps pour comprendre et pour saisir que j'avais fait fausse route. Ce n'est pas ce que je cherchais. Il suffisait d'attendre jusqu'en 48 ou 49 où il devenait vraiment clair pour moi que le présent, c'était une autre dictature en Hongrie. C'était une dictature communiste, stalinienne. Ce n'était pas ce que je cherchais. Je devenais journaliste, jeune journaliste, mais je ne suis pas restée journaliste longtemps parce que j'ai préféré choisir une existence un peu plus dissimulée, pas aussi exposée.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons d'Imre Kertész avec vous, Clara Royer. Imre Kertész qui a raconté l'arrivée des chars du général Patton le 11 avril, la distribution du chocolat, des cigarettes le soir même, le pot-au-feu aussi, qui est malheureusement en a tué quelques-uns parce que la nourriture était trop riche après tant de privations. Et il raconte dans cette archive ce retour à Budapest, son père est mort. Et il est encore, lui, un enfant. Il a encore 15 ou 16 ans.
Mais il a 15 ans, oui, effectivement, quand il rentre à Budapest. En fait, finalement, le récit de ce qui se passe entre le 11 avril 1945, le jour où, en effet, le camp de Buchenwald est libéré, et tout début juillet, quand il rentre à la gare de l'Ouest de Budapest, c'est finalement dans son scénario, dans le scénario d'être sans destin qu'il l'a écrit. Et il y a une scène redoublée, d'ailleurs, dans le scénario, très importante, qu'on peut résumer par un des deux titres qu'il avait choisi, qui s'appelle « Le choix », dans lequel, à deux reprises, un soldat américain dans le film, mais de fait, il m'a raconté que ça s'était vraiment passé, lui demande « Tu es sûr que tu veux rentrer à Budapest ? Il n'y a rien, tout est en ruine. » On lui avait montré des photos de la ville éventrée par le siège de l'armée rouge.
On
lui avait dit « Va en Suède ou en Suisse, tu y seras bien mieux. » Il rentre parce que, pour lui, il est naturel, et j'utilise l'adjectif à escient, de vouloir retrouver sa famille.
Mais il est quand même assez dur avec lui-même quand, rétrospectivement, il parle de cet adolescent de 15 ans qui suit comme un bovin. Enfin, quand on a 15 ans, quelle peut être la conscience politique à cet âge-là, et finalement, il est assez dur quand il se reproche d'avoir pris, comme les autres, sa carte au Parti communiste.
Non, alors... Il a en effet 15 ans. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent qu'il veuille se jeter comme ça dans la reconstruction d'une Hongrie nouvelle. D'abord, il retrouve sa mère. Ils sont pauvres. D'autre part, il y a une forme d'idéalisme chez lui. Et puis surtout, il faut imaginer que le Parti communiste hongrois, sortait au bout de 25 ans de sa clandestinité, avait un discours extrêmement rassurant pour un jeune déporté.
Oui, c'est pour ça que rétrospectivement, il est quand même assez dur avec lui-même.
Oui, mais non, parce que en fait, il évoque une raison dans le dossier K principal. Il dit que finalement, peut-être son adhésion s'explique aussi par le besoin d'appartenir. Et ce besoin d'appartenance, il se comprend extrêmement bien, mais tout le combat d'écrivain que Kertész mène, parfois aussi contre lui-même, c'est un combat pour se réveiller, pour être tout le temps en éveil. Et c'est pour ça que la prochaine date vraiment importante, ça va être 1955. Et son expérience dans ce qu'il a ensuite nommé le couloir en L. À la faveur d'un... Rien des pas dans un couloir en forme de L. Tout d'un coup, il est pris d'une sorte de vertige existentiel. C'est comme ça qu'il en parle.
Et de révélation.
Il est frappé par une illumination. Et là, il se rend compte que tout ce qu'il a fait entre 45 et 55, c'est rien, que tout ce qu'il a écrit ne vaut rien, et que il a passé sa vie à raconter, à comprendre ce qu'il avait traversé comme un chapelet d'anecdotes.
Cette illumination, est-ce qu'on peut dire que c'est une illumination d'ordre existentialiste, parce que c'est un admirateur notamment de Camus, mais sans doute de Sartre aussi, et ce qu'il découvre dans ce couloir en L, alors on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe là, il l'explique je crois plus précisément dans Le Refus, mais ça n'est toujours pas particulièrement clair, et donc il décide de vivre pour lui, c'est ça, et de vivre pour l'écriture.
En fait, la carrière, plutôt la vocation littéraire, elle vient en 1953, de façon sûre. Il y avait déjà eu de l'écriture auparavant dans sa vie, c'est ce qu'il raconte dans cet archive qu'on vient d'entendre. En effet, entre 48 et 50, il a été journaliste pour un journal communiste qui s'appelait Villa Gauche, Clarté. Dans lequel il a commis, j'ai pu retrouver 8 articles signés par lui, parce que la plupart, c'était des petites brèves, donc il les signait pas. Ce sont des articles ridicules quand on lit l'œuvre de Cartès, parce que il traite à majorité des jeunes stakhanovistes. Ce sont tous des articles chantant l'éloge de ces jeunes stakhanovistes de la société hongroise. Voilà.
Ce qui ne lui correspond pas du tout.
Quand on connaît le Cartès écrivain, évidemment, on ne peut être que surpris. Après, Cartès va donner un portrait de lui dans Le Refus en mauvais journaliste. Mais bon, ça, c'est une reconstruction d'écrivain. On ne sait pas ce qui s'est passé.
D'ailleurs, il dit qu'il a eu de la chance d'être renvoyé.
Oui, il a été renvoyé d'ailleurs pour une histoire assez comique. Sa chef de rubrique l'avait envoyé sur l'île Marguerite pour couvrir un événement d'une association de jeunesse communiste. Et puis il faisait beau ce jour-là, il y avait une jolie jeune fille à qui comptait Fleurette, alors il n'y est pas allé et il a écrit un texte avec les slogans et... les mots d'ordre habituels. Dommage pour lui, la réunion avait été annulée. Et donc, il s'est fait prendre la main dans le sac. Quelques semaines plus tard, il s'est fait renvoyer, en effet, en janvier 51.
Et c'était plutôt un moindre mal, car c'était moins dangereux. On peut dire quand même que dans ces années, juste après-guerre, Clara Royer, à partir de 45 jusqu'en 48, et comme d'ailleurs beaucoup de survivants des camps, il va oublier ou tâcher d'oublier le plus possible ce qu'il a vécu. Et ce sont 3 années d'une vie extrêmement intense, extrêmement festive aussi.
Oui, il parlait de sa vitalité explosive. Mais c'est un adolescent quand même. C'est un adolescent. C'est quelqu'un qui survit au sens même où il bouffe la vie. Et donc, ces 3 années
il
sont
vit trop.
Des... Non, pas trop, mais en tout cas, d'une certaine façon, métaphoriquement, il continue d'être un musulman jusqu'en 55. Il est inconscient. Ces années 45-48, de fin de lycée, parce qu'il va avoir son l'équivalent de son baccalauréat en 48, ce sont des années de frasques. De resquilles dans le tramway, sa mère est obligée d'aller chercher au commissariat une fois, de filles qu'on emmène danser, alors que Cartès détestait danser, donc voilà. Et puis ça va continuer dans cette Hongrie stalinienne extrêmement étrange qu'il décrit dans Le Refus, puisque dans Le Refus, on a un tableau de la Budapest stalinienne, la Budapest de Rákosi, qui est une Budapest de marginaux. On traîne au café, où pendant que les opposants politiques se font emmener dans des camions, on raconte des histoires avec ses copains jusqu'à 3h du matin et on gribouille des comédies musicales.
Et alors, autre paradoxe, dans la vie d'Imre Cartes, en 1951, il est appelé sous les drapeaux et fait son service en tant que gardien de prison.
Oui. Oui, après 3 semaines d'entraînement, il signe ce papier qu'il affecte dans une prison militaire.
Donc il sait bien ce qu'il va faire quand il décide d'accepter.
Oui, pour lui, c'est une expérience fondamentale. C'est d'ailleurs l'expérience qui va le pousser à son premier grand texte littéraire, ce premier roman qu'il n'a jamais pu achever, qu'il a retransformé en partie dans Le Refus, et qui s'appelle « Moi, le bourreau ». Moi, le bourreau, sur lequel il commence à travailler en 55, est profondément inspiré de cette expérience dans la prison. Et donc, on en sait quelques éléments à la lecture du Refus. Dans Le Refus, Kövess, donc
affecté
son alter ego. Son alter ego est donc affecté dans cette prison militaire où il est en charge de surveiller. Il essaye d'être un bon gardien, mais le problème c'est que il guette la faute. Et de fait, un jour, il bat un détenu qui ne cesse de crier son innocence.
Et là, on est dans le roman ou on est dans
la
biographie ?
Là, on est dans le roman parce que dans la biographie, alors ça, c'est peut-être la seule question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse claire. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé.
On va continuer de parler d'Imri Kertész avec vous, Clara Arroyer, mais tout de suite, je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté des revues littéraires. C'est En compagnie des revues. Et il y a une nouvelle revue dans le paysage, nouvelle ou presque, hein, c'est le deuxième numéro de la revue Le Courage que vous animez, Charles Danzig. Bonjour.
Bonjour.
Donc, deuxième numéro, mais tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Est-ce que vous pourriez nous redire quel est le projet de cette revue Le Courage ? Quand je dis vous, c'est pas vous, Charles Danzig, que tout le monde connaît, bien sûr, mais la revue peut-être pas encore.
La revue est effectivement à son deuxième numéro. C'est une revue annuelle, à thème unique, ce qui fait qu'on peut, je crois, la considérer comme un essai à plusieurs auteurs. Voilà. Et elle s'appelle Le Courage. Elle s'accompagne aussi d'une collection de littérature chez Grasset. Elle s'appelle Le Courage parce que je crois, et je ne suis pas le seul à le penser, qu'on fait de la littérature avec du talent, mais que d'une certaine façon, à partir du moment où on a du talent, on n'a que du talent. Et qu'il faut du courage pour écrire. Il faut du courage pour écrire bien souvent contre la société, bien souvent contre soi. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un très beau texte de Victor Hugo dans littérature et philosophie mêlée qui s'appelle Humbert Gallois. Et cet Humbert Gallois était un jeune Suisse qui est arrivé à Paris au moment du romantisme, qui avait énormément de talent. Et il n'avait que du talent, il s'est suicidé.
Il n'y a pas de bonne littérature sans courage.
Non, je crois. Je crois, parce que c'est difficile, tout simplement. C'est difficile pour toutes les raisons que j'ai dites et peut-être d'autres, mais le talent, d'une certaine façon, c'est assez... Évidemment, c'est pas si répandu que ça, mais à partir du moment où on en a, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça peut conduire aussi à de très grandes facilités, le talent. Ça peut être de très grands gâchis, le talent. Donc, le courage, c'est aussi d'aller contre ça. Et donc, voilà pourquoi j'ai appelé ma collection et ma revue...
Voilà, parce qu'il y a une collection qui va avec tout ça chez Grasset.
C'est ça, exactement, qui publie des livres de littérature. Et là, je viens d'y publier un premier roman qui s'appelle Branque, d'une jeune femme qui s'appelle Alexandra Fritz, qui est un roman sarcastique sur la folie. Et là, ma revue, cette année, a un thème unique, donc, et son thème, c'est les salauds.
Les salauds. Alors, qui sont ces salauds ? Je lis quelques noms que vous allez me commenter, j'imagine. Bon, Anders Breivik, ça c'est un salaud, il n'y a pas de problème. Vous mettez sur le même plan Anders Breivik et Margaret Thatcher, par exemple ?
C'est pas moi, c'est les auteurs, mais c'est les salauds et la façon dont on les considère. Vous savez que Breivik a provoqué un livre d'éloges furieux il y a 2 ans qui procédait d'une espèce de romantisme un peu puceau.
Alors, qui est le salaud ? C'est celui qui écrit le livre après ?
Et les deux le sont, c'est-à-dire la personne qui approuve le salaud est un salaud mineur ou peut-être majeur après tout. La personne qui approuve le salaud est un salaud majeur, oui, en fait, je crois que c'est ça l'histoire. Et donc là, le Breivik est commenté par Knausgaard, le grand écrivain norvégien, qui, lui, sait ce que c'est. Lui, il s'est pas excité dans un café de Paris en prenant des postures romantiques. Il est norvégien, il sait ce que c'est, il est allé là-bas, il raconte à sa façon très froide et très neutre ce que c'est qu'un salaud. Un salaud assez banal, d'ailleurs, comme Breivik.
Oui. Et alors, Margaret Thatcher, donc, c'est un salaud ou faut-il féminiser, d'ailleurs?
Oui, c'est une
femme salaud.
Salope, oui, je crois qu'on peut dire ça comme ça. En tout cas, les femmes auteurs qui écrivent dans ce livre emploient le mot salope sans beaucoup de problèmes. On peut y trouver une nuance sexuelle parfois, mais d'ailleurs, il y a Jiang Qing, la femme de Mao, qui était une monstrueuse salope et qui avait commencé avec une partie d'attrait sexuel sur son cher Mao qui n'est pas négligeable. Mais il y a des salauds collectifs parfois dans Marvel. Il y a par exemple une femme qui s'appelle Leila Seth, qui est la mère du grand écrivain indien d'expression anglaise Vikram Seth, et elle écrit un texte qui commence, à mon sens, de façon magnifique par « Mon nom est Leila Seth, j'ai 83 ans ». Et il s'ensuit un texte où elle passe une engueulade, je crois que je peux employer ce mot, une gigantesque engueulade à la Cour suprême de la République de l'Inde qui vient de déclarer criminelle l'homosexualité. Comme son fils est homosexuel et qu'elle est juriste, elle a 2 raisons de répondre et elle fait ça de manière formidable. Mais il y a aussi Poutine qui est raconté par un ancien opposant à Poutine qui a été obligé de fuir la Russie et qui prend beaucoup de risques pour en parler. Et ça, c'est les salauds les plus visibles.
Qu'est-ce que c'est, pour terminer, le ton de cette revue, Le Courage? Et qu'est-ce que vous voulez porter? Est-ce que vous voulez que les articles soient particulièrement littéraires, par exemple?
Oui, je pense que la littérature permet de découvrir des choses que le journalisme ne permet pas de découvrir. Et c'est en particulier pour cela qu'il y a de la fiction dans ma revue. Car la fiction est excessivement importante pour découvrir ce qui est dans l'ombre. Le journalisme le fait moins bien, à mon avis.
Clara Royer, est-ce que c'est une catégorie pour Imre Kertész, les salauds?
Oui, non, Le Courage, pas les salauds.
Il pas a les subi salauds. Les salauds.
Non, parce que chez lui, il y a l'idée que la victime et le bourreau ne doivent pas être séparés. C'est-à-dire qu'on est victime et bourreau. Et c'est justement le sens de son travail sur Moi le bourreau. Et ce qui va sortir après dans le refus, comment quelqu'un comme Kövesh, dont il n'est jamais dit de façon explicite, mais c'est là partout, qu'il est un ancien musulman, il est un survivant, comment Kövesh devient-il un bourreau dans la prison?
Et vous, Charles Dantzig, vous êtes lecteur d'Imre Kertész?
Oui, j'ai une grande passion, enfin je suis assez banal en cela, mais par exemple pour le Kaddish, pour l'enfant qui ne naîtra pas, que je trouve un livre...
C'est le meilleur pour vous?
Ah, c'est probablement un des meilleurs. Je trouve qu'il a une façon précisément d'utiliser la fiction pour tordre la réalité. Et ces ambiguïtés dont vous parlez depuis tout à l'heure entre sa biographie et le roman est une chose passionnante, parce que c'est dans le roman, que c'est par le roman et la fiction qu'il arrive à plus de choses. Je pense qu'il, d'une certaine façon, il est plus fort que Primo Levi, par exemple, sur les camps. Alors qu'évidemment, Si c'est un homme, est un chef-d'œuvre. Mais je pense que... Kertész est plus fort.
Merci Charles Dantzig. Merci. Si on souhaite trouver du courage, il faut se rendre en librairie. Vous écoutez toujours La Compagnie des auteurs et c'est sur France Culture. Nous partons jusqu'à jeudi à la rencontre d'un écrivain, Imre Kertész, et c'est Clara Royer qui est mon invitée d'aujourd'hui.
Peut-on imaginer liberté plus grande que celle dont jouit un écrivain dans une dictature relativement limitée, pour ainsi dire fatiguée, voire décadente? Dans les années 60, la dictature hongroise était arrivée à un point de consolidation qu'on peut appeler consensus social et auquel le monde occidental donnerait plus tard, avec condescendance, le petit nom de communisme de goulash. Après l'animosité du début, le communisme hongrois était devenu d'un coup le communisme préféré de l'Occident.
A magyar kommunizmus egyszerűen a nyugat kedvenc kommunizmusává változott volna.
Dans le bourbier de ce consensus, il ne restait qu'une alternative. Ou bien renoncer définitivement au combat, ou bien chercher les chemins tortueux de la liberté intérieure.
Amik a belső szabadságához elvezetnek.
Un écrivain n'a pas de grands besoins. Un crayon et du papier suffisent à l'exercice de son art. Le dégoût et la dépression avec lesquels je me réveillais chaque matin m'introduisaient vite dans le monde que je voulais décrire. Je me suis rendu compte que je décrivais un homme broyé par la logique d'un totalitarisme en vivant moi-même dans un autre totalitarisme. Et cela a sans aucun doute fait de la langue de mon roman un moyen de communication suggestif. Si j'évalue en toute sincérité ma situation à cette époque-là, je ne sais pas si en Occident, dans une société libre, j'aurais été capable d'écrire le même roman que celui qui est connu aujourd'hui sous le titre d'Être sans destin et qui a obtenu la plus haute distinction de l'Académie suédoise.
Un extrait du discours de Kertész devant l'Académie Nobel, où il revient sur les années hongroises qui l'ont vu écrire « Être sans destin », un livre qu'il ne va commencer à rédiger qu'à partir de 1954, Clara Royer.
En fait, 1960.
1960, pardonnez-moi. C'est très longtemps, quoi qu'il en soit, après sa sortie des camps. On peut peut-être revenir sur le terme de musulman que vous employez et sur lequel il ne faudrait pas qu'il y ait d'ambiguïté.
Qui n'a pas d'acception religieuse hein, dans ce cas-ci, bien évidemment. Non, c'est le terme employé par Primo Levi ou par Agamben pour désigner ces détenus des camps qui avaient renoncé à la vie et qui mouraient dans les 2-3 semaines suivantes. Les témoignages de ceux qui ont survécu évoquent souvent ces êtres qui ont le regard éteint et qui attendent que ça arrive, en fait. Enfin, qui n'attendent plus, d'ailleurs.
Donc, c'est toutes ces années pendant lesquelles Kertész va, peut-on dire, ruminer, je ne sais pas, son expérience des camps de concentration avant qu'il puisse finalement le mettre sur le papier. Vous dites qu'il fait l'expérience d'une presque double vie à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ?
Eh bien, en fait, d'abord, il faut attendre 55 pour qu'il arrête de considérer que ce qui lui est arrivé à Auschwitz, puis à Buchenwald, puis à Zeitz, et de retour à Buchenwald, n'est qu'une série d'anecdotes. C'est en 55 qu'il commence à prendre conscience de ce qui est arrivé. Et ensuite, il faut encore 5 ans pour qu'il décide d'écrire l'histoire de sa déportation, comme il en parle dans une note qu'il jette sur une feuille de papier en mars 1960. Où là, il décide de se prendre pour matière première. Il s'est baladé sur l'île Margaret et tout d'un coup, il s'est dit, voilà, c'est ça ce qu'il faut que je fasse. Et ensuite, de 60 à 73, il va écrire le livre. Et en effet, le tournant des années 50-60, ça enclenche chez lui, à partir du moment où il y a cette révélation dans le couloir en L en 1955, un sentiment de clandestinité. Il en parle dans le dossier K, il dit qu'il y avait des moments...
Le dossier K, c'est un livre d'entretien.
Le dossier K, oui, le dossier K, c'est son... Eh bien, c'est ce qu'on associe le plus à une autobiographie, mais que lui ne voyait pas comme une autobiographie. C'est un livre d'entretien avec son éditeur et ami Zoltán Hafner, qu'il a entièrement réécrit après en avoir lu les transcriptions, et qu'il considérait comme un dialogue socratique. Donc, encore une fois, le parti pris de la fiction. De la recomposition du matériau brut de la vie. Dans Dossier K, en effet, Kertész explique qu'il y avait des jours où il collaborait et des jours où il manifestait. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? À partir de 58, l'hiver 58-59, il faut imaginer que Kertész et sa femme, Albina, sont extrêmement pauvres. Le couple vit principalement des revenus qu'Albina engendre
et
en tant que
rester,
serveuse.
Ils vivent, on le sait, dans une pièce, en fait, une seule
ils
pièce
vivent
de
dans
26 mètres carrés.
28 mètres carrés aux 3 rues Tereuk, dans une pièce où on ne peut pas bouger. Alors, tant qu'Albina travaille... On peut écrire, hein. Kertész peut écrire, mais en plus, quand Albina, à la fin des années 70, va prendre sa retraite, ça deviendra un cauchemar. Et dans les années 80, Kertész travaillera soit dans les appartements de ses amis, soit dans celui de sa tante, la sœur cadette de sa mère.
Parce qu'il est resté quand même pauvre quasiment jusqu'aux années 80, voire même plus tard. Et c'est finalement en 2002 le prix Nobel qui va faire qu'il
non, alors c'est
avoir
la reconnaissance,
une certaine aisance.
Je dirais quand même, non, ce revenu s'améliore quand même dans les années 90 avec la reconnaissance immense qui lui est apportée d'abord par l'Allemagne. En 96, c'est pas le premier texte qui est traduit en allemand, mais en 96, Être sans destin est traduit et a un succès extraordinaire.
Alors on va revenir sur ce dernier moment de la vie d'Imre Kertész,
mais
sur la question de la double vie dont vous parlez dans la biographie Apparaître, cette double vie, c'est à la fois écrire Être sans destin et c'est aussi écrire des comédies musicales. Alors
exactement.
Ça, on s'y attend pas tellement.
Alors, en effet, Kertész a été l'auteur, à ma connaissance, de 4 comédies musicales avec des titres succulents du type « La charrette à bourricot », oui. « Mademoiselle le docteur »,« Le mariage de Cyrano » et « L'amour toque à la porte qui n'ont pas toutes été des fours. D'ailleurs, hein, « L'amour toque à la porte » a été le succès de la saison 61-62 au théâtre Attila Yogef. Et c'était des comédies musicales. En fait, il a participé à cette culture de masse, de propagande, du système Kadar, hein, de cette, il en parlait là dans l'archive, hein, de cette démocratie populaire préférée de l'Occident. On disait que la Hongrie de Kadar, c'était la baraque la plus joyeuse du camp socialiste, parce qu'il y avait une forme de... Bon, alors, je pèse mes mots, mais une forme de communisme libéral, où en fait, on laissait de plus en plus du champ dans le domaine de la culture, de l'économie, du moment que rien sur le plan politique n'était remis en question.
Donc il y participe, mais quand même un peu à contre-cœur.
Alors, il y participe de fait assez à contre-cœur. Ce qui se passe, c'est qu'à l'hiver 58, il est en train de mourir de faim et d'écrire le dos contre son poêle, comme il me le racontait, quand un de ses très bons amis, Jvan Kalai, qui lui est resté un auteur de comédie, vient le trouver et lui propose de finir une comédie musicale avec lui pour qu'il se fasse de l'argent. Juste après 56, les acteurs, une bonne partie des acteurs, des comédiens avaient été mis au placard et donc ils essayaient de cachetonner en province. Et donc l'idée, c'était de faire une pièce comme ça.
En 1956, Clara Royer, c'est l'insurrection de Budapest, et là il dit « Pour un seul et bref instant, le pays est devenu subjectif ».
Oui, il a eu le sentiment pendant ces quelques semaines en 1956 de... Bah lui aussi de vibrer au même diapason que ses concitoyens. Ça a été un moment d'espoir fou, très vite brisé. Et en fait, 56 pour lui, ce qui est intéressant, c'est que contrairement à 1945 où il décide de rentrer comme une bête dans un troupeau, comme on l'a entendu tout à l'heure, en 56, c'est consciemment qu'il décide de rester.
Pour la langue, il dit que c'est en partie pour la langue.
C'est à cause de la langue. C'est parce qu'à ce moment-là, il est déjà en train d'écrire « Moi, le bourreau » et qu'il se sent incapable, à 27 ans, d'apprendre à ce point une langue étrangère qu'il pourrait écrire son œuvre à l'étranger. Et donc, ça a été une source de regret chez lui. Hein. Il enviait beaucoup Arthur Koestler, par exemple, qui était cet écrivain juif hongrois, lui aussi, qui a connu une carrière européenne et qui écrivait en anglais. Il l'enviait d'avoir été capable de changer de langue.
Il aurait pu écrire en allemand, peut-être, parce qu'il traduisait les livres en allemand, je crois.
Alors, ces traductions sont beaucoup plus tardives. Il s'est mis à traduire à partir de 78 de la littérature allemande en hongrois, mais son rapport à l'allemand a été extrêmement compliqué. En fait, il lisait de la littérature d'ailleurs beaucoup de littérature française en allemand, parce qu'il fallait qu'il mette la main sur des œuvres qui ne passaient pas dans le milieu éditorial hongrois. Mais c'est dans les années 70 qu'il a l'impression d'avoir amélioré son allemand passif en lisant Kafka en allemand. Ça n'empêche que sur le plan actif, il s'est senti à l'aise surtout à partir des années 80-90 quand lui-même allait en Allemagne. Enfin, dans l'une des deux Allemagnes.
Alors, à partir des années 75, disons, on peut considérer que le bonheur va arriver dans la vie d'Imre Kertész, même si ce n'est pas tellement un mot qu'on a envie d'associer à Imre Kertész. Et vous parlez d'une sorte de bonheur dans le camp socialiste.
Oui, en fait, Kertész...
Mais une sorte de bonheur seulement.
Il y a du bonheur dans la vie de Kertész parce que il y a le bonheur de l'écriture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Être sans destin est publié en 75, il est reconnu écrivain officiel. Ça veut dire que sa profession officielle, désormais, c'est écrivain. Et donc il a, effectivement, il y a une légère amélioration du quotidien. Il a accès à cette maison d'écrivain Sigligette, dans laquelle il peut fuir les 28 aussi, mètres carrés pour écrire.
Tranquillement.
Bah, pour écrire, par exemple. Mais il y a aussi le bonheur de certaines amitiés. Et en fait, les années 80, il le dit, je crois que c'est dans Sauvegarde, j'ai été heureux entre 1983 et 89. Ce sont des années où finalement, il arrive à trouver une forme d'équilibre entre la dépression et la joie de l'écriture, parce que la dépression est une très longue, enfin, il y a une très longue histoire de la dépression de Carter. Souvent, on pense que c'est quelque chose qui est lié à la fin de vie, mais pas du tout. Oui, il y a une forme de bonheur qu'on trouve dans le journal de galère, en particulier avec cette attention à la nature, au chant des oiseaux. Et en fait, Carter, c'était camusien, en ce sens qu'il estimait lui aussi que le bonheur est un devoir.
Et il est également, vous le disiez, un écrivain officiel et qui va au fur et à mesure devenir, presque sur un malentendu, en tout cas c'est lui qui dira que c'est sur un malentendu, un écrivain culte. Comment ça se passe ça, d'abord en Hongrie et puis ensuite ailleurs en Europe?
En Hongrie, il faut attendre quand même la fin des années 80, voire plutôt le début des années 90 pour qu'il devienne un écrivain culte. Il est connu dans les années 80, bien sûr, mais quand on dit l'écrivain Carter, personne ne pense à lui. On pense à un autre écrivain qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Carter et qui s'appelle Ákos Kertész. Donc c'est pas Imre Kertész qui est le plus connu. C'est avec le Kaddish pour l'enfant qui ne naîtra pas, et ensuite surtout avec sa nouvelle Procès-verbal, que là il devient culte à Budapest. Ensuite, il y a...
Mais culte, ça veut dire par un petit nombre de... avec un petit nombre de lecteurs.
Non, quand même, de Procès-verbal lui a été culte au sens où on a immédiatement transformé la nouvelle en pièce de théâtre. Elle a été jouée à la Biennale de Beaune en 92. Il a reçu un nombre de lettres assez ahurissant. Tout d'un coup, on s'est jeté sur lui pour lui demander de publier ses nouvelles œuvres. Donc non, quand même plus. Alors bien sûr, c'est l'élite budapestoise et on peut dire que c'est un petit monde, mais... quand même.
L'élite budapestoise et ensuite l'élite berlinoise, car, chose étonnante, et qu'on creusera, je l'espère, un peu plus mercredi prochain, dans cette série d'émissions consacrée à Imre Kertész, il va vivre chez les bourreaux, c'est-à-dire chez les Allemands.
Oui, mais pour Kertész, il ne va pas vivre chez les bourreaux. Kertész, c'est pour ça, ça explique aussi la réception allemande de l'œuvre de Kertész. Kertész, c'est quelqu'un qui a tendu la main à ses lecteurs allemands, qui, contrairement à d'autres écrivains survivants comme Jean Améry, n'était pas animé par le ressentiment et qui voulait dialoguer sur ce qui s'était passé pour être à même de penser l'avenir. Donc c'était toute son œuvre est un discours non pas sur le passé, mais sur l'Europe.
Il est très européen. Il dit qu'il était dans l'Union européenne avant même que l'Union européenne existe et soit vraiment effective.
Oui. Finalement, le succès que Kertész a eu en Allemagne, il est aussi fort, il s'appuie sur les conférences qu'il a données, sur les lettres de lecteurs auxquelles il a répondu. Et donc, ce n'est que plus tard qu'il s'installe à Berlin. C'est au début des années 2000, il y est de plus en plus. Et puis, au lendemain du prix Nobel, écœuré par ce qui se passe en Hongrie, il quitte Budapest et il s'installe à Berlin.
Et il fera le chemin inverse pour finir ses jours à Budapest.
En 2013.
Où vous l'avez côtoyé plusieurs fois, vous l'avez beaucoup rencontré. Quelle image gardez-vous de lui ?
Je me rappelle la dernière cigarette qu'on a fumée ensemble, une Lucky Strike, exactement la même que... Enfin, je cite la marque parce que c'est celle-là qu'il a fumée quand il avait 15 ans à Buchenwald, c'était sa première cigarette. C'était le 18 septembre dernier et je me rappelle surtout de ça, sur la terrasse avec ses yeux ironiques, en train de fumer sa cigarette... Parce que c'était bon pour son Parkinson.
Merci beaucoup Clara Royer. Je vous propose, pour terminer cette émission, d'écouter un peu de poésie.
Holy, holy, holy.
Le grand écrivain Raymond Carver était également un poète et les éditions de l'Olivier s'en sont souvenues. Elles viennent de publier ses œuvres poétiques complètes et Jacques Bonnaffé en profite pour nous en lire des extraits aujourd'hui. Il a choisi les poèmes qui parlent implicitement du besoin d'écrire poétiquement.
Bonjour. Prenant Raymond Carver, ayant entendu dire que Thibaut de Montalembert, le comédien, avait réussi une soirée mémorable à la Maison de la Poésie à Paris, constatant que le tome 9 des œuvres complètes de Raymond Carver aux éditions d'Olivier se dénommait « Poésie », on s'est dit qu'on pouvait lui laisser la parole. Poème. Ils me sont venus chaque jour ce mois-ci. Autrefois, je disais que je les écrivais parce que je n'avais pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire, bien sûr, de mieux. Quoi que ce soit d'autre que seulement des poèmes et des vers. Désormais, j'écris des poèmes parce que j'en ai envie. Bonheur en Cornouailles. Ce qu'il y a de bien dans un poème, c'est qu'il y a des interruptions, quoi. Les lignes s'arrêtent. Regardez. Sa femme mourut et il vieillit. Entre le cimetière et la porte de sa maison, il avait une drôle de démarche. Le dos voûté, il laissa ses habits devenir loque et sa longue chevelure blanchie. Ses enfants lui trouvèrent quelqu'un. Une grosse femme, plus toute jeune, chaussée de gros souliers et qui savait laver, cirer, brosser, faire les courses et rentrer du bois. Qui pouvait loger dans une chambre au fond de la maison, préparer les repas et lentement, lentement amener le vieil homme à l'écouter lire de la poésie pendant la soirée devant le feu, Tennyson, Browning, Shakespeare, Drinkwater, des hommes dont les noms occupent de l'espace sur la page. Elle était maîtresse d'hôtel, cuisinière, gouvernante et au bout d'un temps, où nul ne sait ni ne veut savoir quand, ils se mirent à s'habiller le dimanche pour sortir en ville. Bras dessous, elle souriante, lui fière et content, et la main posée sur la sienne. Nul ne les dénigrait, nul ne cherchait à déprécier leur histoire, en aucune façon. Le bonheur est si rare. Le soir, il écoutait de la poésie, de la poésie, de la poésie devant le feu. N'en aurait jamais assez de cette vie. Tiens, un poème pas contre les oiseaux chanteurs. Doucement, oiseaux chanteurs, fichez-moi la paix. Inutile de faire tout ce tintouin, même si c'est le matin, j'ai encore besoin de dormir. Où étiez-vous fourré quand j'avais 30 ans, quand la maison restait obscure et silencieuse tout le jour, comme si quelqu'un était mort, et que ce même quelqu'un ou quelqu'un d'autre préparait un énorme repas morose pour les survivants, un repas qui dura 10 ans. Allez-vous-en, mes jolis. Revenez dans une heure, mes amis, alors je serai bien réveillé. Vous verrez, cette fois je peux le promettre. Un petit menuet, matin radieux, jour où je désire tant de choses que je ne désire rien, seulement ma vie et rien de plus, n'empêche, j'espère que personne ne s'amènera, mais si quelqu'un se présente, j'espère que ce sera elle, celle qui a des petites étoiles de diamant à la pointe de ses chaussures, la fille que j'ai vue danser le menuet, cette ancienne danse, le menuet, elle le dansait comme on doit le danser et comme elle en avait envie. Eh ben oui.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
La poésie de Raymond Carver dans la voix de Jacques Bonnaffé pour terminer cette compagnie des auteurs qui est consacrée jusqu'à jeudi à l'écrivain hongrois prix Nobel, Imre Kertész. Merci beaucoup à mon invité d'aujourd'hui, Clara Royer, dont on attend donc la biographie de Kertész, ce sera chez Actes Sud. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et chercher dans nos archives les émissions qui pourraient vous intéresser. En attendant demain, une émission dans laquelle nous parlerons davantage du rapport de Kertész avec le communisme, ce sera avec le politiste Jean-Yves Potel. Nous parlerons également d'aspects plus directement littéraires avec cette fois la chercheuse Catherine Cocchio. Cette émission a été réalisée par Laurence Millet, à la console il y avait Myriam Guillot. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.